Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot. Au passage, j'aurai de nouveau l'honneur et le plaisir d'être avec vous chaque lundi cette saison. Pour le reste, ce sera évidemment l'atelier Annie Gasnier. Les jeux sont faits, vous le savez, Paris 2024 c'est terminé. Radio Foot n'est plus au Club France, l'émission retrouve son studio 41. Fini les couscous porte de Pantin pour Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Mais on les recommande les couscous porte de Pantin.
Oui, oui, tout à fait.
Ils sont excellents.
On ne donnera pas l'adresse, mais les gens peuvent trouver facilement.
Exactement. Shérif Guémour aura également été un habitué de la Villette pour RFI durant les Jeux. Bonjour Shérif.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Enfin, notre troisième consultant du jour aura également vécu avec intensité les Jeux, les Paralympiques de Paris notamment, mais pour son employeur principal, le journal L'Équipe. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver, et c'est vrai qu'on s'est régalé 10 jours exceptionnels.
Pas de blues post-paralympique ?
Non, ça va. On a vécu quand même entre les Jeux et les Jeux paralympiques des moments qu'on n'oubliera pas. Comme dirait Yannick Noah, on ne l'oubliera pas.
Les Jeux sont faits, donc retour à une actualité ballon un peu plus classique, les éliminatoires de la CAN, deuxième journée. Certains pays ont pris un mauvais départ sur la route qui doit les mener au Maroc en 2025. Mali, Gabon, Guinée ou Bénin sont-ils en danger en cas de nouvelle contre-performance ? En Europe, les papis font de la résistance. Inusable Ronaldo, inusable Modric, tous deux buteurs hier soir avec leurs sélections respectives. En revanche, un certain Luis Suarez ne portera plus le maillot bleu de l'Uruguay. D'autres adieux, ceux d'Alex Morgan aux États-Unis. La retraite sportive d'une des grandes vedettes du football au féminin et peut-être tout simplement du football tout court. Radio Foot réalisé par Mathieu De Gueldre, préparé avec Pierre-Olivier Guérin. C'est parti. Le chemin qui mène au Maroc est court, puisque les éliminatoires de la CAN 2025 sont resserrés. Tout se joue sur la fin d'année 2024. Les premiers mètres sont difficiles pour certains pays qui se sont ratés lors de la première journée de la phase de groupe et qui doivent donc se relancer sous peine d'être en grand danger. Le Sénégal a-t-il réussi à relever ce défi aujourd'hui ? La réponse est oui, Patrick Juillard. Pour la manière, on repassera, mais la victoire, elle est bien là. Après le nul à domicile contre le Burkina, les Lions de la Teranga se sont imposés face au Burundi, à l'extérieur, sur le papier. C'était vraiment sur à l'extérieur pour eux. C'était pas au Burundi, c'était au Malawi.
C'était au Malawi, donc c'était un match sur terrain neutre. Ils se sont imposés. Alors, dans l'ensemble, le Sénégal a davantage, évidemment, sans surprise, eu le ballon, fait le jeu et créé des occasions. Mais le but va faire couler beaucoup d'encre puisqu'il intervient sur une action extrêmement litigieuse. Pour résumer rapidement, la balle navigue un peu aux abords de la surface burundaise, les Burundais ont du mal à se dégager. Et un défenseur burundais dégage le ballon en hauteur alors qu'il est à la lutte avec Sadio Mané. Et l'arbitre, après avoir hésité, voit...
une sorte de pied haut.
Il voit un pied haut et il désigne le point de pénalty. Le problème, c'est que si on revoit l'action ralentie, l'action litigieuse, le contact supposé, parce que sur les images, on a du mal à voir si c'est un dégagement licite ou un vrai pied haut. De toute façon, ce n'est pas dans la surface. Donc de toute façon, il n'y a pas lieu, de siffler un pénalty là-dessus. Et finalement, le Sénégal l'emporte grâce à ce pénalty litigieux sur une tentative réussie d'Ismaïl Assar, puisque Sadio Mané, en plus, était sorti...
officiellement.
Oui, officiellement blessé pour se faire soigner suite à cette faute. Disons que c'est pas la plus belle manière de laver la petite climatisation subie à Diam Niadio contre le Burkina Faso, mais ça fait 4 points en 2 matchs et donc le Sénégal avec 2 qualifiés par poule est quand même bien parti, mais c'est pas les meilleurs, ça va pas apaiser, ça va pas lever tous les doutes quoi.
Mais ça va peut-être rasséréné le climat autour d'Aliou Cissé qui, paraît-il, commençait à être chahuté par certains supporters, Hervé Penaud.
Oui, bah, il est chahuté depuis la dernière CAN. Hein. Et puis même avant, il y avait toujours des interrogations sur sa capacité à relancer un peu l'équipe après la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que les deux premiers résultats n'ont pas donné non plus matière à enflammade du côté du Sénégal. On a bien vu qu'il y a pas mal de propos qui commencent à être tenus par des gens un peu de plus en plus critiques. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'il a remporté, qu'il n'a jamais perdu en éliminatoire CAN, ce qui n'est pas rien. Hein, c'est, en Afrique, ce n'est pas facile. Que là, même sans l'emporter, alors c'est vrai de cette manière-là, mais peut-être qu'il ne l'aurait pas perdu ou peut-être qu'il l'aurait emporté différemment. Ça veut quand même dire qu'à l'extérieur,
oui,
même
le Sénégal,
si
ce n'est
pas
le vrai
extérieur,
point, quoi,
voilà, mais... ils sont quand même, ils avaient quand même la possibilité de s'imposer. Mais c'est vrai que du côté d'Aliou Cissé aujourd'hui, eh ben, il y a toutes ces interrogations qui naissent, un peu comme Didier Deschamps.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est un peu le Didier Deschamps?
On est un peu dans un parallèle avec Didier Deschamps. On se dit, mais est-ce que ce n'est pas la fin d'une histoire, la fin d'une époque? Attention, hein, il ne faut pas oublier quand même ce qu'a apporté Aliou Cissé au football sénégalais. Alors, il a changé son adjoint, il ne faut pas oublier, hein, puisque Pape Thiaw est venu sur le banc, Régis Bogarde a arrêté. Donc, il a quand même tenté peut-être quelque chose, essayer de modifier un peu la structure interne de l'équipe. Ça reste sur le papier une grosse, grosse équipe d'Afrique, mais qui s'en remet et qui s'en est souvent remis, évidemment, à ses individualités. Et il y avait un peu moins le jeu collectif que certaines autres équipes étaient obligées de mettre en place pour s'imposer.
Chef Guémont, vous vouliez ajouter quelque chose?
Les difficultés à rencontrer contre le Burkina montraient un peu dans la... Ce qu'on avait vu du Sénégal lors de la dernière CAN, une équipe qui a du mal à faire le jeu. Quand elle est bousculée, elle est en difficulté. Bon, après, bon, le Burkina est une très bonne équipe, mais ils ont perdu leur superbe, leur souveraineté. Il y avait un petit côté invincible qu'ils avaient avant, qu'on avait aussi un peu attribué à l'équipe du Maroc. Mais la dernière CAN a redistribué un peu les cartes et j'ai l'impression qu'ils font un peu moins peur. Mais ça reste une grosse équipe.
Un dernier match, j'allais dire. Parce que leur premier tour a été plutôt bon aux Sénégalais. On s'était dit tout de suite quand ils sont sortis des poules
qu'ils étaient au rendez-vous.
Là, ils vont être costauds. Simplement, ils ont eu un échec majeur contre la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier, hein, qui était dans un état désastreux. Et d'une certaine manière, eux ont relancé la Côte d'Ivoire avec un match. En menant avec une expulsion non sifflée, rappelons-nous, pour Sadio Mané, hein, qui fait une faute en début de match. Et on a l'impression que c'est eux qui ont relancé la Côte d'Ivoire alors qu'ils avaient tous les atouts et tous les atouts maîtres pour pouvoir s'imposer.
Il y a eu un beau passage de relais finalement pour rester dans le thème olympique.
Ce qui incite quand même à l'optimisme pour le Sénégal, c'est que dans les catégories de jeunes, le Sénégal est surpuissant à truster tous les derniers titres. Et je pense que maintenant la difficulté pour Aliou Cissé, ça va être de ménager la transition entre la génération un peu déclinante Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, et celle de Lamine Camara et des autres. Et là, il va falloir trouver les bons... faire rentrer les jeunes au bon moment, trouver les bonnes transitions générationnelles. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a souvent tendance, quand on est un sélectionneur à succès, à s'accrocher à un groupe qui a gagné. Or, depuis que le Sénégal a gagné cette CAN, on a un peu l'impression qu'ils ont un petit peu moins faim, qu'ils se surpassent plus autant qu'ils ne se surpassaient avant dans des situations difficiles.
Un huitième de finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas négligeable.
Mais ce qui était sur la manière, ce n'était pas exceptionnel.
D'accord, ce n'était pas exceptionnel par rapport à l'effectif et par rapport à la capacité de faire peut-être un peu mieux. Ce n'est pas pour ça qu'ils auraient battu les Anglais. Loin,
Chérif, un dernier mot sur le Sénégal,
équipes qui nous intéressent. Il faut, comme disait Patrick, oxygéner le groupe.
J'ai déjà entendu ce terme, ce néologisme réoxygéné, je crois, dans la bouche de Didier Deschamps.
Les Pape Matar Sarr, les Lamine Camara, etc. C'est quand même
c'est du haut niveau.
Ouais. Très haut niveau.
Il y a un réservoir pour le Sénégal qui s'est remis sur le bon chemin dans le cadre des éliminatoires de cette CAN. On espère pour ses supporters une relance identique pour le Gabon. Le Gabon corrigé par le futur pays hôte de cette prochaine CAN, le Maroc. Défaite 4-1 il y a quelques jours dans la poule B. Les Panthères qui n'auront pas la tâche facile face à un autre pays francophone d'Afrique centrale qui, lui, en revanche, a très bien réussi ses débuts, à savoir la Centrafrique, Patrick Juillard. Là aussi, il y a peut-être un passage de relais entre le Gabon qui était régulièrement en CAN et la Centrafrique qui était régulièrement aux portes de cette CAN. Et là, la Centrafrique a commencé par une victoire et le Gabon a très mal commencé.
Oui, alors ce qui n'est pas évident dans cette poule, c'est qu'il n'y a qu'un qualifié, puisque le Maroc est qualifié d'office en tant que pays organisateur. Donc c'est la poule la plus difficile. C'est la seule poule qui n'offre qu'une place. Et donc, une défaite coûte cher. Une défaite, en plus, avec 3 buts d'écart, donc c'est beaucoup.
Face au futur pays hôte qui... On va dire joue ça un petit peu pour s'échauffer.
Oui, c'est pas des matchs un peu semi-amicaux. Et la Centrafrique qui va devoir enchaîner, va devoir enchaîner contre le Gabon pour essayer de ne pas perdre. Parce que là, le Gabon avec 1 point, la Centrafrique avec 4 au bout de 2 journées, il y aurait déjà un petit break pour les fauves de Raoul Savoie. Donc c'est un match très intéressant pour une équipe qui en plus ne peut pas jouer à domicile depuis des années, donc qui est encore un peu plus désavantagée par rapport aux autres, qui est, ironie du sort, qui joue parfois au Maroc, comme beaucoup de celles qui ne peuvent pas jouer chez elles.
Oui, l'Afrique centrale va vibrer, va se passer quelque chose là, avec ce match Gabon-Centrafrique.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi je serais peut-être un peu moins inquiet pour les Gabonais, attendez, hein, c'est loin d'être fait, hein, la qualification.
Mais je pense que le Maroc... Mais il y a danger, en revanche.
Ah, il y a danger. Et puis danger. Le Maroc va faire le plein, en tout cas à domicile.
Oui, ils ne vont, équipe... vont pas jeter des matchs. Oui.
Ils ne vont pas lâcher et ils s'imposeront contre les autos et la République centrafricaine.
Mais là tout de même, gagner 4-1 pour une équipe qui, encore une fois, n'a pas besoin de ces victoires d'un point mathématique, le Maroc, pour le Gabon, c'est quand même inquiétant.
Non, n'oubliez pas une chose, c'est que l'équipe du Maroc, sur le papier, c'est une méga équipe. C'est du costaud. Là, ils ont rappelé avec le retour de Brahim Diaz. Alors, il y a eu en plus plein de pénaltys. Hein. Il y a eu quand même 2 pénaltys en première mi-temps, dont un raté
par Aubameyang.
On a vu que Bounou avait pris l'ascendant sur Aubameyang, qui en rate pourtant très peu.
Donc l'équipe quand même du Maroc, c'est vraiment du solide. Et je pense que les autos et la Centrafrique auront du mal là-bas. Simplement, le Gabon, depuis l'arrivée de nouvel entraîneur, ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont beau rappeler des gens, on voit que ça ne fonctionne pas toujours.
Il en est où là, Aubameyang, en ce début de saison?
Aubameyang,
il a réalisé une saison extraordinaire l'année dernière.
Oui, mais en fait,
une
fin de saison. Oui, mais n'oubliez pas quand même qu'en équipe nationale, il a encore des choses à prouver.
Oui, il venait de revenir.
C'est pas le joueur qu'on a connu dans les grands clubs européens, mais simplement, il peut se dire c'est ma dernière chance d'avoir quelque chose, d'accrocher quelque chose avec le Gabon. Donc ça peut un peu le relancer la machine. Puis surtout, on sait que dans le Gabon, le problème, c'est souvent un problème de personne et d'ego dans l'équipe nationale. Alors ça va être intéressant, je trouve, la suite avec les Gabonais. Et la Centrafrique, vous l'avez très bien dit, c'est une équipe qui tourne autour. Chaque fois, on se dit, et cette année, est-ce qu'ils vont y être, est-ce qu'ils vont pas y être?
Et puis qui a fait des résultats sur des terrains difficiles au Nigeria,
et
au Ghana.
Et qui a une certaine constance, Raoul Savoie, là, depuis longtemps.
Et puis, on a l'impression, vraiment, alors pour l'image, pour moi, c'est l'un des plus gros symboles, quand même, même du foot africain, d'une certaine manière. Hein, Geoffrey Kondogbia, qui, lui, délaisse l'équipe de France pour aller jouer, parce qu'il aurait pu être encore en équipe de France, pour aller jouer avec la Centrafrique, ce qui veut dire quand même un amour du maillot, une volonté aussi d'aider les siens. Et on se dit qu'à un moment, peut-être, ça va peut-être passer, ça va peut-être switcher. Alors, ce sera peut-être contre le Gabon cette fois-ci, on verra bien. Mais c'est un groupe vraiment intéressant à suivre.
Le Bénin, de son côté, doit réagir contre la Libye. Ce sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les guépards, c'est ainsi qu'on appelle les écureuils du Bénin désormais, corrigés aussi d'entrée de jeu par un favori, un grand nom du continent, les Super Eagles du Nigeria. Dans ce qu'on aurait dû surnommer le Gernot Rorico, Nigeria,
Nigeria coach des Super Eagles.
C'est excellent. Avec notamment des buts d'Osimhen et Lookman. Osimhen qui avait été lancé par Gernot Rorico.
Oui, et Lookman, quand même, un premier but exceptionnel. Hein, où il passe en revue 3 joueurs, il en met un 4e par terre et il croise sa frappe. Donc, ça, c'est du très haut niveau. Et il fait un doublé en fin de match. Et Osimhen qui avait plus joué...
Ça fait 3-0, hein, l'arrivée.
Ouais, Osimhen qui avait plus joué depuis le mois de mai, du tout. Au bout de 6 minutes, sorti de banc, il marque un but. Donc là aussi, on sent qu'ils avaient faim, ces joueurs-là. Et que peut-être que les cafouillages qu'il y a eu à la tête de la fédération, ça ne les a pas éloignés de leur envie de gagner.
Ils ont un nouveau sélectionneur aussi. Sélectionneur. Hein.
Non, ils avaient nommé Labadia, mais qui finalement n'est pas en poste.
Il n'était pas sur le bon.
Non, il y a eu un désaccord financier.
Enfin. Le Nigeria qui est aussi finaliste en titre de la CAN, donc c'était peut-être une marge beaucoup trop haute pour le Bénin qui du coup a peut-être un besoin quand même de résultats, pas que pour cette CAN, mais aussi parce que c'est un pays qui tarde peut-être à retrouver un certain éclat. Gernot Rorico, elle est déjà là depuis quelques temps.
Ils essayent de développer le football local, ce qui est déjà une bonne chose, hein, avec des terrains qui ont été mis en place. Il y a vraiment une volonté quand même que le football aide un petit peu, même à toute une jeunesse qui serait en difficulté, leur montrer qu'il y a une voie aussi à travers le sport. Donc ça, je trouve que c'est déjà politiquement, c'est plutôt très intéressant. j'allais dire garde entre guillemets, il fait avec ce qu'il a. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement, il n'y a pas d'immenses joueurs dans cette équipe. Ils ont quand même réussi des coups, hein, rappelons-nous. Alors, c'était pas lui en 2019,
ils ont, ils avaient battu le Nigeria,
le Maroc. Bien sûr,
à Abidjan.
Ouais, et puis je pense encore la CAN 2019, hein, quand même, ils se qualifient en éliminant le Maroc. Hein,
c'est leur dernière grande. Et c'est leur dernière participation à la CAN, probablement. Mais ils se qualifient pour les quarts de finale, ils éliminent le Maroc derrière.
Il y a eu un petit traumatisme avec l'affaire de la Sierra Leone et des faux tests Covid avec la bénédiction de la CAF où le Bénin s'était fait clairement voler. Et je pense que depuis, l'équipe, elle marche un peu sur des œufs et qu'il y a aussi un travail mental à faire. Et après, c'est comme, un peu comme le Gabon, le Bénin n'a pas un gros réservoir de talent.
Mais déjà, c'est un petit pays.
À chaque poste, avoir du choix. Il est obligé de faire un peu avec ce qu'il a.
La Libye revient.
Ah, et puis la Libye est toujours dure à jouer. Ils sont solides,
c'est pas extraordinaire, mais ils ont eu des résultats.
Et là, le Bénin ne peut pas jouer à domicile. Donc, en plus, donc c'est encore un...
Mais Mounier est bien là. Donc c'est un joueur... Ils ont quelques joueurs comme ça sur lesquels ils peuvent compter. Hein.
Oui, Olaitan, Mounier.
Oui, Olaitan, etc.
Almeida.
Il y a quelques joueurs comme ça. On se dit, tiens, c'est une équipe qui est une équipe sympa, en tout cas.
Le meilleur la saison dernière, c'était Untonji, qui était un des meilleurs buteurs de Ligue 2 à Rodez et qui a signé à Burnley. Donc, il y a quand même des joueurs qui montent. Hein,
donc, motif d'espoir. Alors, pour le Bénin, on espère que ça se confirmera. Les deux autres équipes d'Afrique de l'Ouest.
Ils sont plus écureuils, en tout cas.
Il faut être à la hauteur du surnom. Les deux derniers pays d'Afrique de l'Ouest qui doivent se relancer demain. La Guinée, battue en RDC 1-0, qui affronte la Tanzanie. Une nouvelle fois, c'est une rencontre délocalisée en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Donc, Guinée-Tanzanie. Et puis, il y aura... Mali en Afrique du Sud pour en découdre avec l'Eswatini. Le Mali qui a concédé un nul à Bamako face au Mozambique. Ça aussi, c'est une grosse contre-performance. Ouais. Donc, pour la Guinée et le Mali, vous voyez ça comment, Chérif Guémour, Hervé Penaud, Patrick Juillard.
Le Mali, c'est pour l'instant, c'est le désastre. Hein.
Mais c'est surprenant parce qu'on parle d'une équipe... Quelqu'un qui ne suit pas forcément le football africain de très près, Chérif Guémour, regarde l'effectif du Mali, il se dit c'est un effectif 5, de très haute qualité avec des joueurs qu'on connaît sur le vieux continent.
Ouais, mais j'ai vu un peu, ils font match nul 1-1. Ouais. C'était à domicile.
Face au Mozambique.
Contre Mozambique. Ils ont été pas mal bousculés. Et comment dire, ils ont pas le, il y a pas de marge. C'est une équipe qui a pas de marge. Dès qu'elle est en difficulté, elle a du mal à faire la différence. Mais c'est toujours, on se fait toujours cette image du Mali au niveau de l'effectif, au niveau des espérances, au niveau du potentiel. Mais là,
pour moi, il y a déjà un problème de gardien de but, c'est-à-dire que Djigui Diarra n'est pas au niveau des ambitions de son pays. Pardon pour lui, mais le Mali devrait pouvoir trouver mieux. Et puis,
normalement,
il paye aussi une énorme instabilité en coulisses, des cafouillages dans l'organisation de l'équipe, un choix hyper tardif du sélectionneur. On a donc Tom Seinfeld qui est nommé il y a une dizaine de jours. On dit d'abord, mais c'est l'intérimaire qui va assurer les matchs. Puis Seinfeld arrive à Bamako, on dit, mais finalement, c'est lui qui sera sur le banc. Tout ça, ça donne un peu l'impression d'être cafouilleux. Et en plus, il y avait de nombreux blessés, surtout d'Amari Traoré, qui est le vrai capitaine et leader de l'équipe.
Mais rappelons-nous
et qui est blessé pour un long moment.
Oui, pour un long moment, parce qu'il s'est fait les croisés. Mais rappelons-nous ce qui s'était passé à l'époque aussi. Hein, Amari Traoré est suspendu par la fédération, les joueurs qui font
qui témoignent en sa faveur et qui
corps derrière,
même quand il n'y a pas de problème en coulisses, il y a toujours, comme disait Chérif, ce problème de marge pour le Mali. Ils ont les meilleurs joueurs parfois les meilleures occasions, et puis il manque quelque chose, un numéro 9.
Non, mais contre qu'ils s'en sortent bien.
Après, attention.
Mais le symbole, c'est la CAN. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Ils font un très très bon match contre l'équipe de Côte d'Ivoire avant de se déliter totalement en deuxième période.
Un quart d'heure de
Ils commencent leur CAN par battre le futur troisième, l'Afrique du Sud, et finalement, ils sont loin de
Non, mais il ne faut pas oublier que le Mozambique sort d'une bonne CAN et est une équipe en gros progrès. Il s'était qualifié pour la première fois depuis 14 ans à la dernière CAN, et je trouve que ça joue pas mal. C'est une équipe joueuse
quand même à ce que le Mali soit
de qualité.
Ouais,
mais
en fait, tu penses qu'ils ont suffisamment de marge pour
le Mali
pour
aujourd'hui n'en a pas beaucoup de marge. Il
faut pas perdre de points.
Pour résumer la pensée de Patrick Juillard, il n'y a plus de petites équipes.
C'est exactement
pas si vous l'avez
ça.
Déjà entendu.
Alors
celle-là,
moi je suis pas d'accord.
Les éliminatoires de la CAN 2025, c'est à suivre également sur notre site internet www.rfi.fr, onglet Afrique Foot.
occasion à venir pour la Croatie avec ce coup franc. Luka Modric face au mur polonais, c'est passé au-dessus et c'est dedans. Le génie de Luka Modric qui fait mouche encore une fois. Le capitaine qui guide la Croatie et qui sur ce coup de patte magique permet à la Croatie de matérialiser sa domination. L'occasion était trop belle.
Merci. Portugal est tellement offensif. Le ballon est arrivé jusqu'à Cristiano Ronaldo dans la surface de réparation au 5m50. Oui, il est chez lui. Et oui, il va inscrire un nouveau but et communier avec tout le stade de Lisbonne.
Ils ont le même âge. Si vous les additionnez, ces âges, vous vous approchez des 80 balais. Leur carrière respective était déjà lancée, et très bien lancée, au moment de la naissance d'un certain Lamine Yamal, par exemple. Alors eux, ils sont plutôt Real que Barça, un club avec lequel ils totalisent un certain nombre de coupes aux grandes oreilles. Et avec leur sélection, ils continuent de montrer la voie. But de la victoire pour Modric, Luka, avec la Croatie hier contre la Pologne. Et pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal face à l'Écosse. Tout ça en Ligue des Nations. 901e réalisation en carrière pour CR7 à 39 ans. Le même nombre de bougies, mais un peu moins de buts en sélection pour Modric, hein, qui ne joue pas au même poste évidemment. Au moins Modric, lui, il est toujours en Europe du côté de Madrid. Que dire de plus, cher Yves Guémour? Les papis font de la résistance. Quel est le secret de ces joueurs pour être encore là dans un Radio Foot du lundi à 39 ans en 2024?
La passion du jeu, la passion du football. J'ai bien aimé, ce que j'ai beaucoup aimé chez Cristiano Ronaldo, c'est que lui, il est parti en Arabie Saoudite pour les bonnes raisons. Lui voulait rester compétitif. On a cru qu'il y allait pour l'argent. Il y allait pour l'argent, on n'est pas idiots. Mais faites la différence avec tous ceux qui sont allés pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que pour l'argent. Bah, ils se sont bananés, ils sont revenus. Voilà. Et,
Benzema, des noms.
Ouais, on peut le dire. Non, mais Cristiano
Ronaldo.
Certains
ont vraiment décliné sportivement.
Cristiano Ronaldo reste compétitif. Il est encore là aux entraînements. Il joue les matchs à fond. Il veut tirer les coups francs, il veut tirer les pénaltys. Il va encore embêter les arbitres. Il est resté tel qu'il était. Maintenant, dans le cadre de la sélection portugaise, moi, ça me pose problème. C'est-à-dire qu'on a du mal à tourner la page. Il y a un totem, j'ai l'impression qu'il tétanise tous les sélectionneurs. Et on va être direct. Cristiano s'est noyé à la Coupe du Monde 2022, à l'Euro 2024. Ouais. Point final.
Mais là, il en est à deux buts en deux matchs. Là, sur
mais
cette
il va continuer de marquer, hein, vous savez, quand il y a toute l'équipe qui joue.
Est-ce qu'il n'est pas en train de se réinventer une énième fois dans sa carrière et retrouver un rôle utile à cette équipe du Portugal, ou bien est-ce qu'on en train de rejouer le même refrain, c'est-à-dire il va marquer en éliminatoire, on va croire qu'il a encore
ça,
sa place, il va plomber son équipe.
Plus il continuera de jouer les matchs, plus il continuera de marquer, mais il ne marquera pas sur les matchs importants contre les équipes importantes.
Là, vous pensez ça, parce que c'est quand même de la compétition officielle, là, Hervé Penaud.
Ah oui, absolument.
C'est pas, et puis c'est.
Il y a Ramos
c'est pas le Liechtenstein en éliminatoire, Coupe du Monde ou Euro. C'est-à-dire que là, c'était quand même la Ligue des Nations, l'adversaire, l'Écosse. C'était quand même l'Écosse.
Qui n'a pas non plus un adversaire.
Non, mais qui a quand même quelques joueurs de première ligue. C'est McTominay qui a marqué pour l'Écosse.
Oui, bien sûr, tout à fait. United. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est un joueur hors norme. Alors, c'est vrai que l'interrogation que doit avoir un entraîneur, il est là, elle est là. C'est de se dire. Est-ce que je le sélectionne? Je vais carrément jusqu'à dire ça. Est-ce que je le sélectionne au risque qu'il soit effectivement le totem et puis qu'il ait une espèce d'aura qui écrase un peu certains de ses coéquipiers? Ou alors, je le sélectionne, mais là, on est obligé de le faire jouer à un moment ou à un autre, hein, parce que si vous ne le faites pas jouer, vous vous retrouvez en difficulté. Il a été titulaire la première fois, là, il rentre. Parce qu'ils sont en difficulté, il rentre en deuxième période et il marque. C'est-à-dire qu'en plus, vous êtes obligé de vous dire, il n'est pas inutile. Donc c'est quand même un joueur hors norme. Ce qui m'avait...
Ça peut être une indication, ça? Qu'il soit plus super joker que titulaire
C'est une possibilité. S'il l'accepte, alors...
Non, il ne l'acceptera pas.
Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas assez.
Bon, tout de même, hein.
Il est possible aussi que lui-même se réinvente. Parce qu'on a parlé de il s'est réinventé sportivement, en étant un joueur de surface, en étant un pur buteur. Pourquoi il ne se réinventerait pas humainement? C'est-à-dire en étant une sorte de passeur, un grand frère. Et puis tout le monde le respecterait de cette manière-là. Rappelez-vous, il a fait une petite déclaration qui est très drôle. Et récemment, il a expliqué, en gros, il dit, mais tout le monde dit que je n'ai pas marqué à l'Euro. Bien sûr que j'ai marqué à l'Euro. Lui, il comptait les pénaltys dedans, les tirs au but. Donc c'est assez drôle.
Ouais, je pense qu'il est aussi motivé par la barre des 1000 buts, parce que là, il en est à 901.
Ah non,
d'autant que,
et
il veut... d'autant que lui, il peut les prouver. Il peut les documenter,
déjà,
si je puis dire.
Oui. Il joue en Arabie Saoudite, donc on peut penser qu'il peut en marquer pas mal. c'est pas le championnat le plus difficile défensivement du monde. Hein, ils ne jouent pas en Italie ou en Première Ligue. Et puis,
enfin, marqué 99.
Et puis le challenge d'une dernière Coupe du Monde.
Il ne marquera pas.
Ouais, mais moi, je suis comme Chérif. Je pense que sur le très haut niveau, il n'est plus invité. Mais aucun sélectionneur, aucun coach, a fortiori un étranger, ne va enlever Cristiano Ronaldo, ne va prendre la responsabilité d'enlever un joueur comme ça, dont le poids est écrasant pour l'histoire du foot de son pays. Donc, il faut que lui-même comprenne et dise à son coach, soit lucide sur son niveau, qu'il voit que s'il fait que 30 minutes bien tonique, c'est mieux que s'il fait 90 minutes,
non,
comme
une âme
en peine.
Non.
Mais est-ce qu'il a la capacité
pas
à
du tout.
Cette humilité ? J'ai des doutes.
Non,
et je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que là, on le voit sur des rassemblements courts où il y a 6 ou 7 jours. Là, je pense qu'il peut garder
un peu de fraîcheur.
Une certaine
mais
fraîcheur.
Sur le mois et demi.
Ouais. Il y a 8, pour gagner, il faut 7 matchs. Ça me paraît beaucoup à son âge dans l'enchaînement et la répétition des efforts.
Chérif Guémo, le dernier mot sur Ronaldo.
Il y a deux attitudes. La première, c'est qu'il continue de gueuler sur ses coéquipiers qui ne vont pas donner le ballon tout de suite, qui ont mal centré, tout ça, c'est insupportable. Et la deuxième, regardez le but qu'il a marqué contre l'Écosse, il prend le public à témoin. C'est-à-dire que je joue l'opinion contre mes critiques.
Il l'a toujours fait au Madrid, rappelez-vous, après la finale de la Ligue des Champions.
C'est insupportable.
Le but, c'est une sorte de deuxième ballon, puisqu'il y a un joueur, je ne sais plus lequel, au premier poteau, qui manque de peu le ballon.
Diogo Jota.
Voilà, Jota. Et lui, il est plein axe, il arrive à tendre la jambe et à le pousser au fond des
filets. Ça, c'est bien, c'est super.
Mais ça, c'est bien. Ouais. Mais d'un autre côté, c'était pas lui qui était cherché en premier sur l'action. Donc il y a quelque chose d'un petit peu. On sent que c'est un peu les ballons qui échappent aux autres qui lui arrivent.
Et à partir de là.
Et il y a Gonzalo Ramos qui n'est pas là. On va
en plus.
À partir de là, est-ce qu'on peut faire une vraie différence avec le rôle d'un Modric du côté de la Croatie,
non,
la même
Modric
âge, même personnalité,
non,
on va dire, Modric, palmarès écrasant.
Modric est différent, c'est qu'il sait s'effacer. Il sait comment sortir ou ne pas être titulaire. On l'a vu, il a...
Au Real, maintenant, il ne joue
absolument
plus les premiers rôles.
Et il n'en fait pas un drame.
Et la science du jeu est beaucoup plus bénéfique à l'équipe de Croatie, même si, bon, il va falloir quand même qu'il s'attelle à trouver la relève de Modric.
Bon, ils ne la trouveront pas. On va inventer le suspense, mais on ne trouve pas la relève de Modric comme ça.
Donc voilà. Mais il a un vrai rôle, il a un vrai apport tactique, alors qu'il ne va pas durer 90 minutes ou alors sur une longue compétition, mais sa participation est beaucoup plus crédible que celle de Cristiano Ronaldo. On admire Cristiano Ronaldo, on n'est pas là pour l'enfoncer. Mais Modric, moi, quand je le vois, le peu qu'il a fait encore à l'Euro, même si ça n'a pas toujours été extraordinaire, parce que bon, il avait aussi une grosse saison avec le Real, tactiquement, il apporte encore.
Il y a presque un symbole à Hervé Penaud, de joueurs qui ont marqué à la même époque le Real Madrid, mais dans des rôles différents. Il y en a un qui était le garant du collectif, c'était Modric. L'autre qui était plus dans l'individualité, c'était Ronaldo. Ils se sont succédés au palmarès du Ballon d'Or, hein, 2017-2018. Et c'est presque deux idées du football opposées, même à 39 ans, dans leur vaillance, dans leur durabilité, si je puis dire. C'est encore deux idées du football des années 2010.
Oui, absolument. On a l'impression l'un phagocyte le foot, enfin phagocyte tout ce qui se passe dans une équipe, et puis l'autre, au contraire, il fait tout pour les autres. C'est-à-dire que
pour épanouir
le reste de son effectif. Donc non, c'est deux manières de voir le foot, mais enfin deux amoureux de football, deux génies,
et deux passionnés,
deux génies du
faut
foot, hein, parce que là, vous avez le passeur, évidemment, mais être le finisseur, c'est ce qu'il y a de plus dur en foot. Ce qu'il y a de plus difficile pour un joueur de foot, c'est de marquer des buts. Quand vous en êtes à 901, ça prouve quand même que vous avez quelques qualités.
Mais je pense aussi que Modric, on ne le dit pas assez, parce qu'on voit l'esthète et le joueur de collectif, et c'est vrai, mais il est aussi à la quête de records. Il pourrait devenir le premier joueur du Real à gagner 27 trophées et le premier à gagner 7 Ligues des Champions. Si jamais ça se passe cette saison pour le Real. Donc, il y a aussi une volonté aussi d'entrer dans l'histoire chez lui qui l'aide à rester compétitif, je pense.
Parce qu'il aurait pu partir en Arabie Saoudite.
C'est quand même
aussi,
un sacré compétiteur, même si on voit l'esthète. Mais c'est un joueur qui a renversé des matchs à lui tout seul,
mais
parce qu'il a la rage de vaincre. Mais d'une autre manière, ce n'est pas égotique comme un Cristiano Ronaldo, c'est aussi tourné vers les autres. C'est pour ça qu'évidemment,
mon
cœur balance plutôt pour lui.
C'est un meneur de jeu. Il n'a jamais vraiment joué numéro 10 à l'ancienne, mais c'est le numéro 10 moderne.
À chaque fois qu'il rentre avec le Real, la première chose qu'il fait, déjà il se passe quelque chose, il réclame le ballon, toujours. Et réclamer le ballon et ne pas le perdre, c'est déjà
50%. Ronaldo aussi réclame le ballon.
Mais dans les pieds. Hein.
Ouais, c'est drôle ce qui est Chérif, parce que d'un côté, il nous expliquait, oh, bah, il réclame tous les ballons, c'est scandaleux. Et puis maintenant que c'est Modric, il réclame le ballon.
Ouais, mais donc ça,
c'est le bon
pas,
et le mauvais chasseur.
Pas,
là. C'est exactement
il
ça.
Perd pas,
quelle est la différence
bon
entre
usage.
Le bon et le mauvais chasseur.
En général, c'est pour le redonner, Modric. Ronaldo,
pas c'est ça la beauté du football.
Mais c'est pas le bon chasseur.
C'est pas le même.
Vous avez deux joueurs de la même génération, pratiquement du même club, et vous avez deux idées différentes du football.
On les admire tous les deux.
Fondamentalement,
on les admire tous les deux.
Ils font les mêmes gestes.
On est obligé de les admirer.
Et si on admirait un autre papy des classicos de la grande époque, alors lui, il faisait aussi de la résistance, mais aux règles du fair play. Luis Suarez, un ancien pistolero de Liverpool et du Barça, période MSN, Messi, Suarez, Neymar, ne portera plus le maillot de l'Uruguay, le maillot qu'il a révélé aux yeux du monde et de l'Afrique en 2010.
Oui.
Le mondial en Afrique du Sud, le Ghana. On rembobine, hein, le Ghana va enfin permettre à l'Afrique d'atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Une tête, ça va rentrer, sauf que, eh bien, Luis Suarez de la main empêche le ballon de rentrer des deux mains. Le smash dans le mauvais sens, en tout cas, d'un point de vue ghanéen. Et c'est dans les dernières secondes de la prolongation, hein, c'est-à-dire le caractère tragique, rouge, pénalty, ça va passer. Maintenant, c'est raté par Samoa Gyan et le Ghana finira par être éliminé au tir au but, donc par l'Uruguay. D'un Suarez qui devient un horrible personnage pour les uns, un
héros
capable de se sacrifier pour les autres, héros national, effectivement. Il est celui que ses supporters défendront à vie. J'ai pu le constater avec l'aide de Carlos Pizarro, c'était lors de la précédente Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en date, pardon, au Qatar.
Il se souvient très bien, il était avec un groupe d'amis chez lui. Et à la fin du match, le canapé il était cassé. Et à la fin, il se rappelle aussi que sa bibliothèque était presque cassée, mais ça l'est égal. C'était un bon souvenir quand même.
Suarez est un héros, bien sûr. C'est un type bien, un homme simple qui parle à tout le monde et qui a l'esprit sportif.
Imparable Luis Suarez aux yeux des Uruguayens. On ne veut pas toucher à Suarez, qui lui n'a pas hésité à parer donc les espoirs du Ghana et de l'Afrique en 2010. Bon, l'Afrique a finalement au Qatar atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde via le Maroc. Mais forcément, d'un point de vue RFI, si je puis dire, Suarez, c'est aussi ça. C'est peut-être même d'abord ça. C'est plein d'autres choses avec l'Uruguay. C'est aussi une Copa América en 2011. En 2010, c'est aussi, grâce à sa main, si je puis dire, une demi-finale pour la Céleste. 69 buts, 143 sélections. Il est le meilleur buteur de l'histoire de son équipe. Une Uruguay qui porte 4 étoiles, je le rappelle, sur son maillot, de JO et de Coupe du Monde. C'était il y a plus d'un siècle, ou environ un siècle pour la première Coupe du Monde, Chérif Guémant.
Justement, pour moi, Suarez, c'est un peu ça. Il représente le renouveau de l'Uruguay au début des années 2010, avec le trident, rappelez-vous, qu'il faisait avec Forlan et Cavani.
Et Milito aussi. Et Milito aussi.
C'était pas Milito, le vous parlez de l'ancien du PSG qui avait joué défenseur...
Diego
Diego Forlan.
Central.
Non, ça c'est Diego Forlan, mais celui qui a joué au PSG, Diego
au défenseur central, l'ancien joueur
en
Turquie. Bref, on va retrouver, je vais vous retrouver ça.
Non, mais c'est, comment que s'appelle, c'est le fameux trident
Lugano.
Lugano,
voilà,
Diego Lugano.
Ouais, Lugano, Godin et tout, on va pas tous les citer, évidemment, avec le grand entraîneur Tabarès, qui est resté très, très longtemps. Moi, pour moi, il symbolise ça, c'est le retour de l'Uruguay au premier plan, aussi bien avec la grande équipe d'Uruguay, puis les individualités qu'on vient de citer. avec Valverde qui est un peu la queue de la comète. Enfin, non, il est encore là. Et Suarez s'est aussi distingué avec le trident qu'il a, rappelez-vous, avec la fameuse MSN. Messi, Neymar,
une saison extraordinaire, un passage extraordinaire, moi, une saison extraordinaire avec Liverpool.
C'est un peu l'année charnière, parce que moi, Suarez, pour moi, ça reste la main contre le Ghana. Si on me dit Suarez, c'est la première image qui me revient. J'y peux rien. C'est peut-être ma déformation d'africaniste.
Quand il mord les adversaires, ah, ça vous mais parle pas.
Moi, Suarez, c'est aussi les morsures. C'est aussi donc quand il fait cannibale holocauste dans la surface avec Chiellini, Bakal ou Ivanovic. Mais en fait,
une suspension pour propos racistes à l'encontre de Patrice Evra également en Première Ligue.
Été 2014, le transfert au Barça. La morsure contre Chiellini, où il sent bien que s'il continue, il va être banni ou ça va déraper. Donc, et après, ça s'agit et le bad boy devient le bon père de famille bien sage du Barça avec Messi.
On voit aujourd'hui c'est le meilleur MLS. Ami de Messi.
Voilà.
Au Miami, tous les deux.
En fait, il a gardé la hargne et son côté
uruguayen.
Rageur.
Uruguayen.
Vraiment. Très, très dur à jouer, très dur au mal, mais il l'a adouci dans la forme. Et c'est pour ça que le Barça a pu en avoir le meilleur. Mais moi, j'aime bien les bad boys, mais lui, je trouve que c'est un bad boy qui... C'est presque impulsif. C'est pas vraiment calculé et mis en scène comme certains qu'on peut adorer. Lui, c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est avant tout un immense attaquant, un immense finisseur.
Non, mais lui, c'est un vrai bad boy. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a calculé ses réactions.
Il vient du ruisseau.
Comme beaucoup de joueurs, mais lui, il vient de très très bas, effectivement. Il s'est battu pour arriver là. Mais rappelons-nous le Suarez de Liverpool. C'était un type incroyable. Mais il emportait deux joueurs sur ses épaules s'il le fallait.
Ils ont failli gagner le titre avec une équipe qui n'a rien à voir avec les équipes de Klopp à Liverpool. C'est-à-dire que c'était un Liverpool franchement moyen qui marchait sur l'eau grâce à un Suarez
et Gérard.
Donc après, il part évidemment au Barça.
Il vient de l'Ajax avant Liverpool.
Oui, il fait l'Ajax, oui.
Au moment de la Coupe du Monde 2010, il est à l'Ajax.
Il a laissé un bon souvenir dans tous les clubs où il est passé
Tout à fait. Bah, de toute façon, il
va même gagner un titre de champion d'Espagne alors qu'il est tricard au Barça. Il va à l'Atlético de Madrid et gagne un titre.
De toute façon, c'est quelqu'un qui laisse inévitablement des bons souvenirs puisque partout où il est passé, il a tout donné. C'est quelqu'un qui. Alors, la fameuse expression qui est un peu trop usitée et puis qui peut être un peu irritante au bout d'un moment, mais c'est vrai que l'idée de mouiller le maillot, surtout pour un attaquant de son calibre, c'est quelque chose d'incroyable. Faire des sprints défensifs sur 40, 50 mètres avec sa puissance physique, sa masse, c'est-à-dire que c'est le buteur. Mais moi, je suis un peu comme Patrick. Moi, j'ai encore l'image, je suis au stade en plus quand je le vois là. Sauter et enlever la balle.
Mais t'aurais fait pareil.
Mais d'ailleurs, j'en ai parlé à Samoa Djan.
On l'entend à chaque fois. Mais
Samoa Djan m'a dit, de toute façon, moi j'aurais fait pareil aussi. Hein, c'est tout à fait normal.
Je pense que n'importe quel joueur en fait, Suarez, il a un côté. Il a parfois les fils qui se touchent. Et pour faire ça, il faut ne penser qu'à son pays et pas penser aux conséquences.
Ah, mais de toute façon,
beaucoup de joueurs vont se dire bon, j'espère qu'elle va frapper la barre, mais moi je vais pas la prendre à la main.
Mais non, mais
lui, il le fait.
Est-ce qu'il a un peu préfiguré, pardon pour le cliché, mais ce qu'on a découvert ou plutôt constaté lorsque l'Argentine a gagné la Coupe du Monde vue de France, c'est-à-dire ce que certaines équipes, certains joueurs sud-américains, l'Uruguay et l'Argentine sont assez proches culturellement et géographiquement. C'est cette capacité.
Emiliano Martinez, qui est détesté en France.
À être dans un affect par rapport au maillot national qui pousse à faire, à adopter des comportements qui nous paraissent étranges, nous.
Qui nous paraissent limites. Mais en fait, Emiliano Martinez, aujourd'hui, qui est détesté par le supporter des Bleus lambda, c'est Suarez au Ghana, c'est pareil. Aucun des deux n'a intérêt à aller passer ses vacances dans ce pays.
Les deux, il y a deux choses. Il y a en effet ce sentiment très nationaliste. Les Sud-Américains sont très nationalistes, y compris les Brésiliens, on les imagine toujours. Enfin bon, bref, ce sentiment-là, l'attachement à la patrie, à l'équipe et tout.
Et puis cette idée qu'on peut jouer avec la limite des règles.
Ça a un nom en Argentine, on appelle ça la viveza. La vivesse,
c'est la vivesse. Quel accent,
parce que l'accent du sud de l'Argentine, c'est la vivesse.
Allez-y, Chérif Guémour, expliquez à Hervé Penaud, Patrick Gérard et moi-même, dans Radio Foot.
Alors, quels sont les auditeurs ? Expliquez-nous cette notion, Chérif.
La vivesse, c'est le sens du vice, de jouer avec les limites, c'est ces trucs-là. Bah, en Argentine, c'est...
C'est la roublardise, en fait.
La roublardise.
Mais avec un côté un peu violent et parfois...
Mais les Uruguayens...
Ah, on te fera pas de cadeau, oui, c'est ça.
Hein,
c'est,
les Uruguayens,
j'aurais le dernier
rugueux,
mot.
Quoi.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, on va voir si nos auditeurs... ils sont pour ou contre la
Vivessa.
Quel souvenir garde-t-il de Luis Suarez, la main contre le Ghana ou bien d'autres exploits?
Salut Radio Foot International, Luis Suarez qui raccroche les crampons. El Pistolero, meilleur buteur de la Celeste avec 69 réalisations. On aura toujours en tête le fait qu'il se soit sacrifié en 2010 en repoussant de la main une tête ghanéenne et provoqué le pénalty manqué de Samoa Jan et la qualification derrière de l'Uruguay en dernier carré de la Coupe du Monde 2010. Une légende qui s'en va, Oumar Barrou depuis le Sénégal.
Moi, c'est Yannick Dipindjamena. Aujourd'hui, c'est une journée triste pour moi car El Pistolero va arrêter l'équipe nationale. Il a marqué l'histoire du football. Merci, champion. Que Dieu te garde.
Philan Bailly à Yamsoko. De Luis Suarez, il garde un souvenir d'un attaquant très fort, très percutant. Un souvenir de 2010 en quart de finale contre le Ghana où il sort le but avec la main et il permet à l'Uruguay d'accéder aux demi-finales.
Moi, c'est Séverin Mutombaou depuis Bénin. Je félicite Luis Suarez. Je lui souhaite tout le meilleur, vraiment. Il nous a émerveillés. Je l'aime.
Roger, à partir de la République démocratique du Congo. Pour moi, Luis Suarez, c'est un grand joueur. Ses années Liverpool, ses années Barcelone avec Neymar, Messi. Mais nous, Africains, on n'oublie pas que le quart de finale en 2010 en Afrique du Sud, Ghana et Uruguay sont des souvenirs qui restent gravés dans notre mémoire.
C'est Amadou qui habite à Ottawa au Canada. Luis Suarez, je ne sais pas, un attaquant que j'ai toujours apprécié, mais néanmoins, je reconnais que c'est un grand joueur. Bravo à lui pour tout ce qu'il a fait, surtout pour sa sélection.
Ils sont fair play en revanche, nos auditeurs. Chaque lundi, ils réagissent aux actualités du week-end. Non, je veux dire que Suarez ne l'était pas forcément.
Ah oui, pardon.
Notre vocal, WhatsApp, le numéro pour participer à notre mix auditeur, comme on dit, c'est sur notre page Facebook Radio Foot International. Allez, hommage à une dernière légende du football au féminin, cette fois dans le sprint final de Radio Foot.
And major news for the soccer world. After 15 years, Alex Morgan announced her retirement from the sport on social media. Morgan will be
this moment will be one she will remember, and all of these fans will remember for a long, long time. Hands at captain's armband over, and a big hug to her goalkeeper, Caitlin Sheridan. Oh, incredible emotion as Alex Morgan. Look, this is a woman who has been open, honest, vulnerable, and as someone for so long who has been the face of this sport, perhaps more importantly, she has also been its voice. As Alex walks off and we say thank you, Alex, for all you've done.
Lovely ball, Morgan! Fabulous goal! Alex Morgan!
What a ball!
Alex Morgan trying to chip the keeper. Goal for the Pride. Alex Morgan, how about that?
How about that, so long, Alex Morgan, le visage de son sport, mais aussi la voix de son sport, la footballeuse américaine star. Coupe du Monde 2015-2019 en France, on s'en souvient, les JO 2012 remportés également avec les Américaines. Elle a disputé son dernier match, c'était avec le Wave de San Diego, 35 ans. Elle est sortie à la 13e minute parce qu'elle porte le numéro 13. Elle portait le numéro 13, Alex Morgan, qui a également remporté plus près de nous, plus près de nos studios, la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. En 2017, un très très grand nom. Après Megan Rapinoe, il n'y a pas si longtemps, une autre américaine, une autre vedette, peut-être l'autre grande vedette des années 2010 pour le football féminin, Chérif Guémour.
Oui, alors déjà, on va rappeler la grande attaquante. Bon, à part Megan Rapinoe, je les confondais, il y avait le trio, il y avait Rapinoe, Alex Morgan et Wambach.
Et Obsolo surtout.
Hein ?
Obsolo. Obsolo, c'était la gardienne.
Mais la gardienne, ouais.
C'est la gardienne. Ouais, c'est la gardienne. Mais là, je parle de comment ça s'appelle de la ligne d'attaque américaine. Je m'en rappelle. Elle m'avait fait déjà impression par rapport à son rôle d'attaquante. Donc, elle a fait un saut à Lyon. Je crois qu'elle a fait qu'une demi-saison ou une saison et demie. Elle n'est pas restée longtemps.
Un peu comme Rapinoe. Ouais, ça, plus, c'était des sauts de puce. Mais il y avait un lien entre un club lyonnais, un club qui appartenait à l'OL du côté des États-Unis, du championnat américain et l'OL.
Oui, c'est ça. Il y avait une franchise. Je crois qui a été revendu d'ailleurs cet été.
Oui, maintenant ça s'appelle FC Reigns.
Voilà, c'est ça, OL Reigns. Et donc, oui, elle a gagné une Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Et puis après, donc, il y a une chose intéressante qui est là. C'est l'une des pionnières, entre autres, comment dire, qui a eu un enfant en tant qu'elle était, quand elle était joueuse
professionnelle. Et là, elle est enceinte de son deuxième enfant.
Elle est enceinte de son deuxième enfant. Donc, les choses ont évolué sur ce sujet parce que c'était très difficile avant pour une footballeuse de se faire, faire accepter qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait avoir un enfant. Donc,
elle s'est aussi battue pour l'égalité salariale avec aussi Megan Rapinoe et les Américains.
Ça, c'est après, bon, on va en parler. Ouais.
Donc, bon, bah, allez-y, parlez-en. Bah, désolé, je voulais
pas pour l'égalité salariale, en fait, c'est quelque chose d'assez logique aux États-Unis, vu que la sélection américaine féminine a toujours eu beaucoup plus de meilleurs résultats que la sélection
masculine.
Donc, elle a été à la tête avec Rapinoe et d'autres. C'est un combat qui a été mené il y a une dizaine d'années et qui a finalement été gagné vers 2023, mais qui a été... Non, 2022-2023, qui a été acté il n'y a pas longtemps. C'est l'égalité... Alors, ce n'est pas une égalité salariale exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on rassemble les primes données par la FIFA à chaque Coupe du Monde, avec plus l'argent des sponsors. Et en fait, c'est une sorte de pot commun qu'on redistribue équitablement
voilà.
à la sélection masculine et à la sélection féminine. Alors, un ordre d'idée. Avant cet accord qui a été décidé par la Fédération américaine, je crois que le rapport était de 1 à 3, voire de 1 à 4. C'est-à-dire les garçons qui se faisaient sortir en poule ou alors qui arrivaient en huitième de finale gagnaient 4 fois plus que les Américaines.
Qui dominaient leur sport au niveau mondial, qui était même intouchable.
Voilà, elle a été une des actrices de ce combat.
Donc, un visage et une voix pour son sport. On est d'accord avec la consoeur américaine qui commentait la sortie, le dernier match d'Alex Morgan.
Ouais. Mais moi, justement, je parlais de Hope Solo et Megan Rapinoe et j'ai envie de dire que Megan Rapinoe, c'était plutôt la gauche, l'Amérique de gauche, des centres urbains.
Progressiste, plus dit-le.
Progressiste, intellectuel.
Vous avez envie de dire woke, c'est ça ?
C'est plutôt l'Amérique profonde,
la déjantée.
Républicaine, un peu déjantée, un peu white trash.
White trash.
Voilà. Et Alex Morgan, c'est la joueuse consensuelle qui ratisse très large, qui peut être aimée de tous.
La commande des sons de
filles. Qui est très consensuelle, vraiment, qui n'est pas clivante. Et je trouve que ces trois joueuses-là, vraiment donnaient toutes les facettes du foot féminin américain et donnaient sa force d'image à l'équipe américaine dans ces années 2010. Et voilà, elle représente vraiment, au-delà de ses stats et de son palmarès long comme le bras, ce visage un petit peu c'est le visage qui met tout le monde d'accord.
Hervé Penaud,
le foot féminin américain.
Hervé Penaud, le meilleur pour la fin, le mot
sûr,
de la fin pour
sûr.
Vous. J'ai dit en introduction de l'émission, vous allez avoir que 30 secondes, j'ai dit en introduction de l'émission que c'était peut-être une star du football tout court, une légende du football tout court. J'aurais pas dû dire peut-être.
Il faut aller enlever le peut-être. J'ai failli vous reprendre d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était abusif.
Voilà, j'ai attendu la fin pour recevoir ma leçon.
Abusif et quasi sexiste. Non, c'est évidemment une légende du football. Ce qu'elle a fait aussi bien sur le terrain que dans ses combats hors terrain montre que c'est une personnalité qui a marqué l'histoire du foot. Donc la voir partir, c'est toujours un regret. Mais ça fait partie de l'histoire, ça.
Mais elle a mal vécu le fait de ne pas être retenue dans la sélection qui a été championne olympique cet été.
Ah, mais elle était plus très jeune.
Non, mais...
35 ans et...
Elle sera encore plus rentrée dans la légende.
Et sa carrière...
C'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi elle a arrêté.
Quand elle regardera son palmarès, elle admirera ses trophées sur la cheminée, elle saura se consoler, je pense,
avec ses deux
Morgan.
Enfants.
Une légende du football. Et il y a eu pas mal de légendes au sommaire de cette émission, à commencer par Patrick Juillard, Chérif Guémon, Hervé Penaud, Pierre Guérin et Mathieu De Guèvre. Une autre légende.
Et vous-même.
Non, mais moi, je chauffe la place pour une autre légende. Annie Gasnier qui revient demain. Ciao. 16h10 temps universel sur RFI. Et tout de suite un nouveau journal.